14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Nous ne comprenons pas l'acharnement qu'il y a contre lui. S'il avait commis ce crime, il aurait fait quelque chose contre ses intérêts. Voilà, sans compter l'affection qu'il portait à Catherine. Donc, pour nous, ça n'a aucun sens. C'est illogique.
Bonjour. Un crime sans aveu, sans témoin et sans mobile. Deux procès au verdict diamétralement opposé. L'affaire Ségala est depuis son commencement à l'hiver 2010 l'affaire de tous les paradoxes, de toutes les interrogations et de toutes les interprétations. 11 ans après les faits, les avis divergent toujours sur le rôle joué par Laurent Ségala, un généticien français de renom et brillant intellectuel. Il va être accusé d'avoir tué en Suisse sa belle-mère, une femme qu'il aimait comme sa propre mère, et d'avoir maquillé le crime en accident. Pourtant, les éléments qui paraissaient confondants aux yeux de la police suisse vont fondre comme la neige tombée en abondance cette nuit tragique sur le canton de Vaud, et empêcher d'accéder à une vérité immaculée. Dans cette affaire, Laurent Ségala n'a jamais cessé de clamer son innocence. Une affaire et des accusations, dit-il, qui ont brisé son existence. Comment un scientifique de premier plan s'est-il retrouvé sur une scène de crime? Mensonge ou trop de mémoire? Des interrogations que nous allons aborder avec nos invités.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Ségala, histoire qui commence une nuit d'hiver 2010, près de Lausanne, dans l'un des villages les plus tranquilles et les plus riches que compte la Suisse. Il est précisément 21h16, ce 9 janvier 2010, lorsque le central des secours du canton de Vaud reçoit un appel sur le 144, le numéro des urgences. Au téléphone, la voix d'un homme hésitante, saccadée et manifestement sous le choc. « J'ai trouvé ma belle-mère en bas des escaliers dans une flaque de sang. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi à la sauver », dit l'interlocuteur qui décline son identité. Laurent Ségala. L'accident s'est produit au lieu dit le Moulin, une jolie maison du village de Vaux-sur-Morge, dans les collines au-dessus du lac Léman, la maison familiale des Ségala. L'opératrice du 144 dit avoir trouvé le gars vachement bizarre. En plus du médecin, elle alerte donc la gendarmerie du coin. Le canton est sous la neige, les routes difficiles. À 21h50, la médecin Cataline Delessert arrive au Moulin. Un corps de femme recouvert d'une couverture, la tête surélevée par une autre couverture, est allongée dans une petite pièce qui sert de bibliothèque. La malheureuse a le cuir chevelu ensanglanté, elle porte une large plaie au crâne et sans doute d'autres fractures. Le docteur Delessert ne peut que constater le décès de Catherine Ségala, 66 ans. Deux gendarmes sont sur place, ils n'ont aucune difficulté à établir que le corps a été déplacé depuis le pied d'un escalier en béton. Il y a là des projections de sang sur les murs et le sol, des traces qui ont été maladroitement effacées. Un deuxième médecin, le docteur Sébastien de Froimont, est sceptique à propos d'une chute. Il demande une autopsie. Dans le salon du premier étage, gendarmes et policiers s'entretiennent avec Laurent Ségala. L'homme, âgé de 45 ans, apparaît prostré, abattu, épuisé. Il indique être arrivé au Moulin aux alentours de 19h30, 19h45. Il ne se souvient pas précisément, il ne porte pas de montre. Il est entré et a trouvé Catherine agonisante et baignant dans une flaque de sang au pied de l'escalier. Il a pris des cours de secourisme, il a voulu la ranimer et pour cela a déplacé le corps dans la bibliothèque adjacente. Il a essayé comme il a pu de soulever sa belle-mère qui pèse 82 kilos, puis a fait glisser le corps. Il a fait du bouche à bouche, s'est évertué, a prodigué des massages cardiaques pendant près d'une heure. L'heure la plus longue de ma vie, dit-il. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi il n'a pas prévenu tout de suite les secours, il répond qu'il était affairé à vouloir sauver sa belle-mère. En outre, il est français et ne connaît pas le numéro d'urgence. Il l'a trouvé dans l'annuaire à l'étage. À propos des traces de griffures au visage et des petites blessures aux jointures de ses doigts, Laurent Ségala indique qu'il a dû s'écorcher en transportant le corps ou lorsqu'il a passé son bras sous Catherine pour la soulever. Une chemise et un t-shirt tachés de sang sont retrouvés dans une machine à laver. Une autre chemise est dans un sac. Il reconnaît s'être changé deux fois. Il a, dit-il, la phobie du sang. Les enquêteurs doutent de la version donnée par Laurent Segala. Ils ne comprennent pas pourquoi le Français n'a pas appelé tout de suite les secours. Reconnaissez que vous avez fait une grosse bêtise, tente un gendarme. Je vous demande un peu de respect, répond l'intéressé. Ce dernier répète que Catherine a dû chuter dans l'escalier. Il l'avait vue à midi et l'avait trouvée fatiguée. Vers 17h30, il est allé rendre visite à son père, Roger Jean Segala, un libraire réputé de Lausanne, intellectuel suisse respecté, hospitalisé pour des ennuis de santé à Morges. Il l'a quitté vers 18h45, a roulé très doucement dans la neige pour revenir au moulin et découvrir le drame. Fin de l'interrogatoire à 3h15, dans la matinée du 10 janvier, Laurent Segala est mis en examen, inculpé d'homicide. Laurent Segala est écroué. Il a beau dire qu'il est innocent, on ne le croit pas. Son comportement après la mort de Catherine laisse les enquêteurs et le juge pour le moins perplexes, même si le dossier va aller de surprise en surprise. Laurent Segala est emprisonné à la prison de la Tuyère, à Launay, à quelques kilomètres du Moulin, la maison familiale là où Catherine Segala a rendu son dernier souffle. La famille de la victime est très remontée contre le scientifique français. Elle estime qu'à minima, celui-ci a laissé mourir Catherine. Si les secours avaient été prévenus tout de suite, elle aurait été sauvée, dit son beau-frère. Laurent se joue de la justice, ajoute l'une des deux sœurs de Catherine. Leur avocat, maître Jacques Barillon, s'interroge, tout comme l'accusation, sur le temps qu'il a mis pour appeler le 144. Trois quarts d'heure se seraient écoulés entre la fin du bouche-à-bouche et des massages cardiaques et ce coup de fil salvateur. Segala est incapable de se souvenir de la succession des événements, comme s'il était entré dans un trou noir. Son père, le libraire Roger Jean Segala, de plus en plus malade, est brisé par ce drame, mais il ne croit pas une seconde à la culpabilité de son fils. Laurent, qui s'apprêtait à reprendre les rênes du commerce familial après avoir laissé tomber son emploi de généticien au CNRS de Lyon, Laurent avait d'excellents rapports avec Catherine. Elle l'aimait comme un fils et lui comme sa propre mère. Aucun conflit, notamment financier, n'avait éclaté. Autour de la librairie, tout le monde se réjouissait de cette passation de pouvoir. Roger Jean Segala confirme encore que son fils a la phobie du sang. C'est pour cela qu'il s'est changé deux fois et a essuyé, comme il le pouvait, les éclaboussures. La justice a bien du mal à trouver le mobile qui aurait poussé Laurent Segala à tuer une belle-mère qui ne lui voulait aucun mal et ne lui faisait pas d'ombre. Le rapport du professeur Patrice Mangin, le légiste le plus en vue en Suisse, maintient pourtant que la chute ne suffit pas à expliquer la blessure au crâne de la victime. Catherine aurait été frappée avec un objet contondant. De l'ADN du suspect a été trouvé sous les ongles de la victime, ce qui expliquerait les griffures qu'il porte, des griffures de défense. De l'ADN de Catherine est également sous les ongles de Laurent, qui l'aurait agrippé. Le généticien est incapable de dire d'où viennent ces griffures. Il évoque les bagues de la victime qui auraient pu l'égratigner, ou encore une relation sexuelle avec sa compagne. Explication qu'il aurait donnée sous la pression policière lors des interrogatoires. Dans tous les cas de figure, Laurent Segala reste emprisonné. À ses visiteurs et avocats, il est incapable de livrer le film exact de ce qu'il a fait le 9 janvier 2010 au Moulin. Une parenthèse en plein brouillard. Plus d'un an après le début de l'affaire, 11 février 2011, la défense de Laurent Segala fournit un rapport qui change tout. La docteure Dominique Lecomte, patronne de l'Institut médico-légal de Paris, a été missionnée pour étudier le dossier. Elle s'est rendue sur place. Ses conclusions contredisent le premier rapport. La légiste indique que la plaie à la tête n'a pas été causée par un objet contondant, mais par une marche ébréchée de l'escalier en béton. Catherine Segala souffrait d'une pathologie cardiaque. Elle aurait subi une attaque vers 17h, 3 heures après son dernier repas. Elle aurait alors chuté dans l'escalier. Son beau-fils n'arrivera que 2 heures plus tard. Absence de plaie, pas de traces de lutte, indique le docteur Lecomte. Les certitudes s'effondrent, mais l'accusation ne veut pas en rester là. Le procureur dégaine un troisième rapport, lapidaire celui-là, signé du professeur portugais Duarte Nuno Vieira, qui conclut, lui, à une violente agression. Dans le doute, le suspect est maintenu en détention. Laurent Segala va passer 28 mois en détention provisoire avant qu'il ne soit jugé. Procès à l'issue des plus indécises au regard des thèses qui s'affrontent dans le dossier et du comportement déroutant d'un accusé amnésique. 23 mai 2012, Laurent Ségala comparé devant le tribunal criminel de la Côte, à Renan, près de Lausanne. Le public découvre un homme de 48 ans, grand et sec, les mains en mouvement, la diction précise et posée. D'emblée, il déclare « Je veux dire, avec force, devant vous, que je suis innocent. Les choses sont comme ça, je suis innocent. » L'accusé répète qu'un trou noir entoure toujours cette soirée dramatique. Lui qui se dit soucieux de précision et qui aimerait avancer une vérité scientifique serait contraint de demeurer dans le flou. Il y a des choses dont je me souviens, d'autres que je reconstitue à partir du dossier. Ces gars-là a du mal à convaincre. Ses défenseurs, maître Marie-Pomme Moina, Stéphane Ditch et Gilles-Jean Portejoie, volent alors à son secours. Il est évoqué des pistes restées en friche, comme celle d'un rôdeur dans une maison où, dont la porte n'était pas verrouillée, d'un conflit possible pour les affaires municipales. L'accusation indique qu'une simple altercation entre Laurent et Catherine Ségala, une dispute qui aurait mal tourné, a peut-être entraîné des coups. L'accusé demande à l'audience qu'on le sorte enfin de ce cauchemar. Après 8 jours de procès, le procureur Éric Cottier réclame 16 ans de prison contre l'accusé pour un meurtre dont le mobile est introuvable, ce qui ne signifie pas, dit-il, que le meurtre en question n'existe pas. Le procureur cite des rapports d'experts selon lesquels l'intervention d'une tierce personne est très largement possible. L'accusation souligne encore le temps mis par Laurent Ségala, presque 3 heures, pour alerter les secours. Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de l'accusé, demande au tribunal d'avoir le courage de prononcer l'acquittement en l'absence de mobile, de témoignages, de preuves, d'aveux et d'armes. Le 1er juin 2012, le tribunal criminel de Renan estime que l'agression de Catherine Ségala semble avérée, mais malgré le travail des enquêteurs qualifiés d'extraordinaire par le tribunal, les indices ne sont pas suffisants pour conclure à la culpabilité du généticien français. Le doute profite donc à l'accusé. Il est acquitté. Laurent Ségala vacille dans le box et doit alors se rasseoir. Fin du cauchemar pour Laurent Ségala, fin provisoire puisque 1 mois et demi après, le procureur général du canton de Vaud fait appel de ce verdict. Il y aura donc un deuxième procès. Ce jeudi 29 novembre 2012, 5 mois après le premier procès, l'accusation est bien décidée à faire feu de tout bois pour obtenir la condamnation de Laurent Ségala devant la cour d'appel pénale du canton de Vaud. Le ton est donné dès l'ouverture de l'audience. Le procureur général Éric Cottier annonce qu'il demandera l'arrestation de l'accusé si celui-ci est reconnu coupable. Le magistrat compare l'acquittement à un roman de gare. Il décrit Ségala comme un meurtrier qui possède beaucoup de sang-froid et insiste sur son haut niveau de dangerosité. Procès express. Après seulement 4 heures de plaidoirie, l'audience est suspendue. Le verdict sera rendu dès le lendemain. Laurent Ségala, présent, a écouté les uns et les autres de façon détendue. Ses avocats lui avaient obtenu un sauf-conduit pour cette première journée de procès, histoire de prévenir toute interpellation. Vendredi 30 novembre, le siège occupé par Laurent Ségala reste vide. Le généticien est resté en France, à Thonon-les-Bains, où il réside la plupart du temps. Dans le doute et en l'absence de sauf-conduit délivré par les autorités, ses avocats ont préféré qu'il reste de l'autre côté de la frontière. À 16h, le président Marc Pelé rend le verdict de la cour. Celui-ci reprend en fait point par point les arguments de l'accusation. Les causes du décès ne sont pas accidentelles, indique le magistrat. Laurent Ségala est sans aucun doute l'auteur de graves lésions infligées à la victime. Il a altéré la scène de crime pour faire croire que la mort était accidentelle. La cour affirme que Ségala était conscient de l'issue mortelle. Il est condamné à 16 ans de prison, peine qui sera ensuite ramenée à 14 ans pour un vice de forme. Bénédicte, la compagne de l'accusé, est scandalisée. Elle confie au point.fr « Tout était préparé d'avance, il fallait que Laurent soit coupable ». Laurent Ségala ne reviendra pas à Lausanne où il serait immédiatement arrêté. La Suisse n'a d'autre recours que de se lancer dans une bataille procédurale pour récupérer cet homme qu'elle considère désormais comme coupable. Depuis une dizaine d'années, Laurent Segala, citoyen français domicilié en France, échappe ainsi aux autorités suisses. Celles-ci ont tout mis en œuvre pour qu'il soit incarcéré dans une prison du canton de Vaud. Elles ont lancé un mandat d'arrêt international, mais la France n'a pas donné suite. Le pays n'extrade pas ses nationaux. Elles ont ensuite formulé une demande d'incarcération sur le sol français de l'intéressé, une nouvelle fois Paris. A fait la sourde oreille. Il a même été question de demander à la France un nouveau procès sur son sol, mais cette éventualité a été écartée. La Suisse n'a pas eu gain de cause, pas plus d'ailleurs que Laurent Segala et ses avocats devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le plaignant dénonçait le procès en appel, expédié en 4 heures et considéré comme inéquitable. Laurent Segala, entouré de ses filles et de sa compagne, continue à clamer son innocence. Il ne serait pas contre un nouveau procès en France. Audience qui lui permettrait de s'expliquer sur le fond et de démontrer enfin sa bonne foi. La maison du drame, le moulin de Vaux-sur-Morge, a été vendu alors que le généticien attendait en prison son premier procès. « Cette affaire a gâché ma vie et celle de ma famille », nous a-t-il simplement déclaré.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, c'est Cindy Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.